Nous passons donc à la seconde partie de la journée et à ce que nous appelons le séminaire. Alors, je l'ai expliqué la semaine passée, j'ai donc donné cette année non plus tout à fait le même titre pour le séminaire que pour le cours, écrire la vie pour le cours, témoigner pour le séminaire, mais il est bien clair que la semaine passée et dans la première heure, pas aujourd'hui, mais la semaine passée et dans la première heure, j'ai un peu parlé du témoignage et dans la seconde heure, j'ai montré les liens entre ces deux questions. Et nous allons donc avoir, je crois que maintenant le programme est affiché au rez-de-chaussée, je ne sais pas s'il l'était la semaine passée déjà, je crois qu'il l'est maintenant. Vous avez donc la suite des séances qui vont nous permettre de réfléchir à cette question. On va donc avoir 11 invités successifs, puis une dernière séance de synthèse. Et je suis très heureux d'accueillir comme premier conférencier dans cette série, puisqu'on va commencer quand même avec, en suivant un vague fil chronologique, avec, puisque Montaigne est au programme, avec un spécialiste de la Renaissance, et je suis très heureux d'accueillir Franck Lestringant. Nous avons été longtemps collègues un peu partout dans le monde depuis pas mal d'années, y compris pendant toutes les dernières années à la Sorbonne, avant que je ne vienne ici. Et Franck Lestringant est donc professeur à l'Université Paris-Sorbonne. Il est très éminent spécialiste de la Renaissance, directeur du centre de recherche Saunier à la Sorbonne. Et ses recherches ont porté pour beaucoup sur la littérature de voyage, sur la colonisation française en Amérique au XVIe siècle. Il a donné beaucoup d'éditions de textes de la Renaissance, Marot, Agrippa d'Aubigné, Jean de Léry, Voyageur, que j'ai évoqué, je crois, la semaine dernière. Je ne sais plus si je suis arrivé jusque-là. Si, j'ai dû en parler la semaine dernière. Bernard Palissy, TV, je crois que j'en ai aussi parlé pour introduire le témoignage la semaine dernière. Il a publié beaucoup de livres et beaucoup d'articles, beaucoup de livres sur cette grande spécialité du voyage et de l'Amérique française au XVIe siècle. Beaucoup d'ouvrages aussi sur les huguenots et le sauvage, sur le protestantisme. Mais il a dans la dernière période, il s'est fait une seconde spécialité. Il s'est mis à travailler sur le XIXe siècle et sur le XXe siècle. Il est donc également l'un des meilleurs connaisseurs d'Alfred de Musset, dont il a édité les textes et à qui il a également consacré une biographie. Voilà donc une formation très très complète, et actuellement il est en train de d'achever, je ne sais pas où il en est, une biographie, il va peut-être nous le dire, une biographie de Gide, très loin de ses intérêts pour le récit de voyage, mais en même temps très près, puisque la réflexion nous mène du journal de voyage, du voyage et du journal de voyage au journal. Et il est évident que tout à l'heure, les remarques de Blanchot que je citais dans des textes des années 40, contre le journal d'Amiel ou contre le journal de Barrès, elles valaient d'autant plus à propos du journal de Gide, publié en 1939, après avoir été publié dans la NRF pendant toutes les années 30. Même si Blanchot ne citait pas Gide, ce qu'on peut comprendre, puisque tout ça a été publié chez le même éditeur, et que Gide était quand même encore le pape de ces éditions, mais il est évident que toutes ces réflexions très sévères sur le journal concernaient également le journal de Gide. Alors, je lui donne la parole sans plus tarder, et il nous avait proposé comme titre « Témoigner au siècle des réformes, le témoin et le martyr ».
Merci Antoine de cette présentation, et je voudrais dire toute mon émotion d'être ici aujourd'hui. Et comme il vient d'être dit, je vais justement faire le pont, je vais essayer de faire le pont entre ce qui a été dit auparavant et mon propos de 16e. Et je passerai donc par André Gide, je commencerai par André Gide. Cette rencontre n'a pas été préparée entre nous, elle est un peu fortuite, mais pas complètement. Alors je partirai donc d'André Gide, et pour une raison simple, c'est que c'est un écrivain, comme vous le savez, de tradition protestante, et dont les racines culturelles, sinon affectives, plongent dans la réforme protestante du XVIe siècle, et en tout cas, plus largement, dans l'humanisme du XVIe siècle. Gide, comme vous le savez peut-être, a été un des grands commentateurs de Montaigne. Et je partirai d'une rencontre tout à fait frappante entre, d'une part, le martyr, le témoignage du martyr, et l'activité littéraire. On vient de voir que, finalement, l'écriture de la vie passait par l'épreuve de la mort, et c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Ce sera un peu le thème permanent de mon exposé. Cette écriture de la vie passe par la traversée de la mort, ce qui veut dire, évidemment, en termes chrétiens, par le sacrifice, par le renoncement et par la promesse de la résurrection. Alors, excusez-moi par avance si mon propos est un peu théologique, mais cela tient à mes lectures et aussi aux auteurs dont je traite. Donc, en 1889, le précepteur et l'ami d'André Gide, le pasteur Élie Allégret, le père du plus connu Marc Allégret, qui sera plus tard l'ami de Gide et fera une carrière dans le cinéma, Élie Allégret donc part en mission en Afrique, au Gabon. Et parmi les populations noires du Gabon, il est à peu près dans le même état d'esprit que les premiers missionnaires européens au Nouveau Monde au XVIe siècle. Il y a peu de temps, écrivait-il le 8 juin 89 à Gide, « Ces âmes existaient à peine, car les indigènes ici n'ont ni religion proprement dite, ni idole. Ils ne pensent pas et vivent au jour le jour, oubliant vite les peines de la veille, étrangers aux soucis du lendemain. » Donc ce sont autant de clichés, des clichés évidemment d'un ethnocentrisme assez effrayant, mais qui sont exactement ces clichés, ceux que l'on trouvait 4 ou 5 siècles plus tôt, à l'époque des grandes découvertes, chez Jean de Léry par exemple. Et Élie Allégret prenait André Gide à témoin de la sainteté d'une tâche presque démiurgique, parce qu'il fallait, finalement, faire des hommes de ces populations qui étaient à peine humaines. D'êtres qui vivent et meurent absolument comme des animaux, faire des hommes, je cite, avec une pensée, avec un sentiment moral, avec la foi en l'éternité, leur donner ainsi tout ce qu'on a reçu, et surtout les amener à celui qui peut tout leur donner, n'est-ce pas employer utilement sa vie. Alors, dans une lettre suivante, beaucoup moins triomphante, Élie Allégret évoquait les difficultés de la mission dans l'Ogoué, donc sur les bords de l'Ogoué, à Lambaréné, un lieu que plus tard illustrerait le docteur Schweitzer. Et il terminait sa lettre, qui rapportait la mort ou la maladie de plusieurs missionnaires, par deux citations, l'une dans un latin approximatif tiré de Tertullien, et l'autre de l'évangile de Jean. La citation de Tertullien, c'est « Sanguis martyrum, semen ecclesiae » ou « semen christianorum », ce qui veut dire « le sang des martyrs et la semence de l'Église ». Et l'autre citation, elle est très connue, c'est « si le grain ne meurt ».« Si le grain ne meurt », c'est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, Jean 12, 24. Cette citation dont Gide va faire le titre de ses mémoires. On voit donc que cette citation, qui est liée à une autre, « Sanguis martyrum, semen ecclesiae », renvoie ici au martyr, au sacrifice que le missionnaire fait, le cas échéant, de sa vie pour faire renaître d'autres âmes. Donc il perd son corps, c'est au risque de sa vie mortelle, il va faire naître des âmes dans d'autres corps. Et ce rapprochement est évidemment intéressant, parce qu'il n'est pas impossible que ce soit là l'une des sources, peut-être, de l'idée que Gide a eue ensuite d'intituler ses mémoires « Si le grain ne meurt ». Vous connaissez la phrase complète, « Si le grain ne meurt, il restera seul, il ne donnera pas de fruit. Pour que le grain donne du fruit, il faut qu'il meure en terre, qu'il pourrisse, et qu'à partir de sa mort naisse autre chose, une autre vie, un nouvel être ». Un autre texte de Gide, rédigé en parallèle avec « Si le grain ne meurt », un texte à valeur de manifeste, associe explicitement le témoignage autobiographique et le martyr. Il s'agit de Coridon, un manifeste en faveur de ce que Gide appelait la pédérastie, d'abord publié sous le manteau en 1911, puis augmenté en 1920, et dont le premier dialogue, grave et presque tragique, contraste avec la suite de tonalités plus légères. Au point de départ du livre, si l'on en croit le porte-parole de l'uranisme, que Gide met en scène, qui est un peu un double de lui-même, il y a un cortège de morts, une litanie de victimes, Wilde, Oscar Wilde, Krupp, MacDonald, von Eulenburg. Ces grands noms diffamés sont ceux d'homosexuels poussés par l'intolérance publique et l'hypocrisie sociale vers la déchéance et vers le suicide. Et Gide aurait pu ajouter bientôt les non moins illustres René Crevel et Klaus Mann. Victime, écrit Gide, mais non point martyr. Et il retrouve ici la distinction qui était au principe des martyrologes traditionnels, du martyrologe catholique et du martyrologe protestant, au temps des guerres de religion. Toutes les victimes ne méritent pas le titre de martyr, encore faut-il qu'elles portent témoignage. Comme le disait saint Augustin au temps où il affrontait l'hérésie donatiste, et comme le rappelle Agrippa d'Aubigné au lendemain de la Saint-Barthélemy, ce n'est pas la peine, c'est-à-dire ce n'est pas la souffrance ou le supplice qui fait le martyr, mais la cause. Ce n'est pas la peine, c'est la cause qui fait le martyr. Or, cette cause doit être proclamée hautement par ceux qui la soutiennent. Sa vérité doit éclater jusque sur le bûcher ou le pilori, à la face des hommes et bien sûr à la face de Dieu. La notion d'accomplissement est essentielle. La justice et la justesse du combat doivent être constatées jusque à l'extrémité, car... ajoute d'Aubigné, le nom de martyr témoigner en reniant au contraire leur raison de vivre et leur être même, ce qui rend leurs souffrances inutiles. Ces victimes honteuses n'ont fait que renforcer la prévention générale contre l'homosexualité. Le plus bel exemple en la matière est naturellement celui d'Oscar Wilde, qui, lors du procès de 1895, a imprudemment attaqué en diffamation Lord Queensberry, se condamnant dès lors à mentir et s'affublant du masque hypocrite de la vertu qu'il fut si facile ensuite de lui arracher. Par conséquent, Wilde est un témoin honteux, un martyr manqué. Qui sait, s'interroge Gide, s'il avait revendiqué de son banc d'accusé la liberté, quel eût été le dénouement de son procès ? Mais il cherchait à se protéger par des feintes, tandis que chaque voyou qui passait à la barre l'accablait davantage. Wilde, à vrai dire, est un martyr deux fois manqué, car à ce premier reniement en plein tribunal à Londres, il n'a pas tardé à en ajouter un second, le De Profundis, une longue lettre adressée à Lord Alfred Douglas depuis la prison, où, écrasé par le sort, il plaide coupable et renie sa cause, la cause homosexuelle. Gide réserva cette confession un accueil extrêmement critique dans l'Ermitage en 1905. Le risque du martyr, ou plutôt la perspective du martyr, est dramatisée au tout début de Corydon. Corydon Gide annonce à son visiteur qu'il prépare, je cite, c'est le titre qu'il donne, une défense de la pédérastie. Il s'insurge à ce propos contre la conjuration du silence, qui enveloppe des victimes résignées et honteuses, elles-mêmes complices, en définitive, de la damnatio memoriae qui retombe sur elles comme une chape. Il s'exclame alors « Voilà bien pourquoi je souhaite à cette cause des martyrs ». Le visiteur, l'interlocuteur donc de Corydon, s'indigne, croit avoir mal compris, n'ose répéter le mot « Vous entendez par le mot ?» et Corydon répond « Quelqu'un qui irait au-devant de l'attaque, qui, sans forfanterie, sans bravade, supporterait la réprobation, l'insulte, ou mieux, qui serait de valeur de probité, de droiture si reconnue que la réprobation hésiterait d'abord. » On retrouve évidemment quelque chose du vieux réflexe huguenot dans cet appel au martyr. C'est le réflexe du temps des persécutions auquel s'agrègent les valeurs traditionnelles du protestantisme, probité, droiture et par-dessus tout sincérité. Ce sont des mots de Gide. L'insolute, le saugrenu même, est que depuis les temps héroïques de la Réforme, la cause, bien sûr, a changé de nature. Ce n'est plus la cause de l'Évangile, mais celle de l'Éros et Phèbe. Mais l'appel n'est pas moins pressant. Il y va de la vie de toute une communauté et du salut, non pas d'un au-delà, non pas dans un au-delà incertain, mais sur cette terre, ici même, dès à présent, d'hommes injustement calomniés et persécutés. Et de Corydon, Gide dira au soir de sa vie, je cite, « J'eus maintes preuves par la suite que ce petit livre avait sauvé du désespoir mains éperdues. » Un livre qui est écrit au risque de la mort, mais qui sauve en définitive. Témoignage et martyr, témoignage et salut. Dès lors que la parole est véridique, qu'elle enregistre fidèlement une mémoire au risque de la vie, elle est efficace et porte promesse de salut. C'est parce que le sacrifice est volontairement affronté, envisagé, accepté, et que la mort est affrontée et en quelque sorte traversée, que la vie peut être transitive et rejaillir sur le témoin en second qu'est le lecteur. C'est un livre qui apporte la vie au lecteur. Cette dialectique entre mort et vie est comprise dans le verset de l'évangile de Jean « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits ». Passage de l'évangile de Jean, donc 12-24, que l'on peut rapprocher d'un passage de la première épître aux Corinthiens, 15-36-37, « Ô folle, ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt, et quant à ce que tu ne sèmes point le corps qui naîtra, mais le grain nu, le grain seul qui mourra et d'où naîtra une autre vie. » Dans l'évangile de Jean, l'image est immédiatement suivie de ce verset de contradictoire, une phrase en chiasme que Gide aimera à répéter. Je cite « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Un verset parallèle de Matthieu 16, 25, qui présente la même formulation, était inscrit sur le faire-part de deuil de la mère d'André Gide, Juliette Gide, née Rondeau, décédée le 31 mai 1895. Il y a plusieurs façons d'interpréter la parabole du grain semé, tant dans l'Évangile que dans la reprise quelque peu blasphématoire, quelque peu sacrilège qu'en fait Gide. Le sens premier, immédiat, littéral, est l'application des paroles du Christ au Christ lui-même. Il faut que Jésus meure pour que l'humanité soit rachetée et accède à la vie éternelle. De cette manière, Jésus annonce à ses disciples sa crucifixion et par là même son règne à venir. Le sens second, allégorique ou moral, est non moins évident. Il faut à chaque chrétien mourir pour ressusciter, laisser mourir en lui le vieil homme pour laisser advenir l'homme nouveau, détaché des liens de la terre, tuer le citoyen de la terre pour accoucher du citoyen des cieux. Transposée par Gide et Agide, la parabole christique ne perd rien de sa fécondité sémiologique. Gide lui-même a dû mourir pour ressusciter, mourir à Sousse en novembre pour ressusciter à Biskra en janvier, lors du voyage initiatique de 1893-1894. Tuer en lui le vieil homme, c'est-à-dire dans son lexique le protestant puritain, pour laisser éclore l'homme rajeuni, accordé au souffle de la nature et avide des nourritures terrestres. Gide écrit ses mémoires pour délivrer, comme il le dit dans « Si le grain ne meurt », un secret de ressuscité. Mais « Si le grain ne meurt » n'est pas seulement un livre de mémoire, il est aussi tourné vers l'avenir de ses lecteurs, pris individuellement, un par un. Le récit de la conversion de Gide est à lire comme un programme valable pour tout un chacun. C'est en effet à chacun qu'il appartient de s'affranchir du carcan des dogmes et des églises ou des morales convenues pour refonder, à partir de lui et de ses penchants ou de ses aspirations, sa propre morale, irréductible à tout autre. Les mémoires de Gide sont donc, avec l'essai de Coridon et aussi le roman des Faux-monnayeurs, qui paraîtra peu après, l'une des trois composantes d'un nouvel évangile qu'il lance au tournant des années 1920, une fois la paix revenue et l'ordre ancien irréversiblement remis en cause par l'ébranlement de la guerre. Ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est sur le remploi au service de l'entreprise du mémorialiste, qui est tout à la fois une entreprise littéraire et une entreprise morale, d'une chaîne de références scripturaires traditionnellement employée par la théologie du martyr. Gide, qui a baigné dans la Bible depuis son enfance, est familier de ce genre de détournement. Mais ce détournement ici n'a rien d'anodin ou d'innocent. Il est opéré en connaissance de cause, il montre le caractère crucial, ou plus exactement vital de l'enjeu. Si l'on veut bien suivre la piste suggérée par la correspondance d'Élie Allégret, il ne s'agit de rien moins que d'un transfert par lequel l'auteur déclare qu'il donne sa vie pour assurer celle de ses lecteurs. Il dramatise par là même jusqu'au sacrifice le don de soi du martyr. Sans doute, dans les années 1920, le risque encouru n'était-il plus celui du bûcher, comme au temps de la Réforme, mais au pire la prison, les travaux forcés dans le cas de Wilde, mais ce n'était pas le cas vraiment en France. Personne du reste n'a eu l'idée d'intenter un procès à Gide, qui s'en montrera du reste presque déçu. C'est un peu ce qu'il cherchait, hein, mais... enfin prudemment. Peu importe au demeurant, ce qui compte, c'est le geste de dramatisation qui met en balance la vie et la mort, la mort de l'auteur et la vie du lecteur, de part et d'autre d'un écrit testamentaire qui sert tout à la fois de seuil à cette transmission, de pivot à cette transformation et, oserais-je dire, de canal à cette transfusion. Ce dispositif est bien présent dans les textes de la Renaissance que j'aborde maintenant. Partons de l'illustration la plus littérale de la formule « si le grain ne meurt ». On la rencontre dans les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, ce poème écrit après les guerres de religion, publié en 1616, dans le long catalogue de martyrs que déploie au centre géométrique du poème, dans le livre 4, le livre des feux. Agrippa d'Aubigné, poète protestant, poète huguenot, y évoque le supplice en 1545 en Flandre d'une certaine Marie, femme d'Adrian, condamnée à être enterrée vive dans une sorte de cercueil sur mesure fermé de solides barres de fer. La martyre, à l'heure d'être ensevelie vivante, se moque de l'invention diabolique de ses bourreaux, car ces derniers ne se sont pas aperçus qu'à leurs dents, ils donnaient une forme concrète à la parole du Christ, une parole qui, dès lors, en ce nouveau contexte, revêt une valeur doublement prophétique. Le verset de l'évangile de Jean, 12-24, annonce son bonheur pour elle et leur malheur à eux. À la suppliciée la vie éternelle, au bourreau la mort seconde de la damnation. Je lis ce court passage des Tragiques. Je veux tirer à part la constante Marie qui, voyant en mépris le tombeau de sa vie et la terre et le coffre et les barres de fer, où elle allait le corps et non l'âme étouffée, c'est, se dit-elle, ainsi que le beau grain d'élite et s'enterre et se sème afin qu'il ressuscite. Si la moitié de moi pourrit devant mes yeux, je dirais que cela va le premier aux cieux, la belle impatience et le désir du reste, c'est de hâter les faits de la terre céleste. La constante Marie, dans le discours que lui prête d'Aubigné, un discours qui est évidemment inventé, qu'il a forgé de toutes pièces, illustre au pied de la lettre la parabole évangélique du grain mourant et pourrissant et qui donne du fruit par-delà sa corruption dans la terre. Dans le martyrologe huguenot, l'histoire des martyrs de Jean Crépin, qui est sa source pour ce cas particulier, la suppliciée ironisait en fait sur la forme du cercueil. Et elle aurait dit, cette Marie, « Est-ce ici le pâté que vous m'avez apprêté ?» faisant allusion à la figure du bois creux auquel on devait mettre sa chair comme en un pâté. On l'enferme dans une sorte de pâté en croûte, quoi. Après tout, l'assimilation de la mort à un festin où la victime constitue le plat de résistance rappelle un aspect fondamental de la symbolique chrétienne. Elle renvoie assez directement à l'institution de la scène et au dogme de l'Eucharistie. Écrivant en poète plutôt qu'en historien et en théologien, Agrippa d'Aubigné a voulu rendre sensible la métaphore en acte que constituait ici le genre particulier du supplice. Ce jeu illustre de manière particulièrement éclairante la structure d'ironie du martyr. L'économie du martyr est fondée en effet sur la contradiction qui existe entre une apparence de défaite, voire d'horreur, et la foi vibrante dans le salut, sur le contraste qui règne entre la destruction physique d'un corps exhibé dans toute sa misère charnelle et la rédemption d'une âme qui monte radieuse dans la gloire de Dieu. Cette structure d'ironie est inscrite d'emblée au cœur du récit de la Passion, tel que nous l'ont transmis les quatre évangiles, où l'on assiste simultanément à la mort ignominieuse du roi des Juifs, comme le porte l'écriteau cloué sur la croix, et à son sacre. C'est cette structure d'ironie fondamentale dont la Passion du Christ définit le cadre, dessine la forme, que les récits de martyrs répètent au cours de l'histoire en des avatars indéfiniment variés. Reste à ancrer cette structure d'ironie dans une situation particulière, à l'enraciner dans un sol où elle retrouvera toute son actualité et sa vérité, au poète d'opérer la transplantation pour ressusciter cette présence, actuellement et visiblement. La fonction de la poésie du martyr serait alors de traduire l'antinomie logique de la perte triomphante, pour parler comme Montaigne, en un oxymore visuel par le glissement du plan intellectuel et logique au plan imaginaire. En préface de son poème, en préface des Tragiques, Agrippa d'Aubigné recourt à un autre modèle, cette fois profane, pour exprimer ce même transfert de la mort vers la vie héritée d'un mort et transmise à un vivant. Il s'agit du début des tristes d'Ovide que d'Aubigné paraphrase au début de son poème. Le passage dans les tristes, c'est le premier vers, « Va, mais sans ornement, comme il convient au livre d'un exilé. Vade sed incultus, qualem decet exulis esse. Va, livre, je cite d'Aubigné, tu n'es que trop beau pour être né dans le tombeau duquel mon exil te délivre. Seul pour nous deux, je veux périr. Commence, mon enfant, à vivre quand ton père s'en va mourir. Donc, ici aussi, on a là, cette dialectique de la mort et de la vie, du mort qui donne naissance au vivant. Ovide et d'Aubigné ont en commun l'exil, plus symbolique dans le cas de d'Aubigné que dans celui d'Ovide, et une paternité littéraire difficilement assumée. Tous les deux écrivent depuis le désert et chargent leur livre de parler et de vivre à leur place. Chez Ovide, déjà, la naissance du livre est associée à la mort du père littéraire. Le thème est filé chez Ovide jusqu'à susciter des figures de parricides célèbres telles qu'Œdipe et Télégone. Et son poème pour Ovide est un enfant parricide qui tue son père pour accéder à la naissance. Et il y a une image récurrente dans les tragiques, l'allégorie de la vérité qui porte un poignard et un emblème que d'Aubigné décrit à plusieurs reprises dans son œuvre, montre cette vérité que l'on porte et qui porte un poignard pour celui qui la porte. Donc vous portez la vérité sur votre dos et cette vérité vous plonge un poignard dans le cœur au cas où vous mentez, bien sûr. Le topos de l'auteur père et du livre-enfant, qui remonte au moins au triste d'Ovide, est surdéterminé ici par la figure évangélique du double renversement de la vie en mort et de la mort en vie. Le livre qui dépasse le sens charnel pour accéder au sens spirituel garantit la vie à celui qui l'a écrit aussi bien qu'à ceux qui la lisent. Mais laissons à présent la voie de la poésie pour emprunter celle de l'histoire. Ou pour le dire plus exactement, c'est un autre type d'évidence qu'il faut à présent s'adresser, non plus l'évidence des yeux, l'énargeia des Grecs, c'est-à-dire l'illusion de présence que parvient à produire la poésie, ou le journal peut-être. Cette présence des yeux, cette évidence des yeux, fait place maintenant à l'évidence logique et narrative d'une démonstration. Ce sera ma deuxième partie. Le témoin et le martyr au temps des réformes. Le martyrologe, recueil des vies de martyrs, est une histoire de témoins et un recueil de témoignages. Et par là même, le martyrologe se rapproche de l'histoire. Comme le rappelle François Hartog, historien et témoin sont au départ presque synonymes. L'histor, chez Hérodote, c'est celui qui sait parce qu'il a vu et qui est fondé à dire parce qu'il a vu de ses propres yeux. L'historien, au sens étymologique, est celui qui tire son autorité du spectacle dont il a été le témoin et qu'il porte à son tour à la connaissance de ceux qui n'ont pas vu. Pour le dire en une formule lapidaire, l'historien est un œil qui écrit. Cette écriture de l'œil était désignée par les Grecs du terme d'autopsie ou vue par soi-même. Alors, quelle différence y a-t-il, dès lors, entre l'historien et le témoin, l'histor et le martus, qui tous deux tiennent leur autorité du témoignage qu'ils transmettent? Alors, François Hartog explique, je le cite, « Ce qui change de l'un à l'autre, c'est le contexte d'intervention et de leur rapport respectif au temps. L'histor, c'est-à-dire l'historien, qui intervient dans une situation de différend, est requis par les deux parties. L'historien, c'est un juge, un arbitre qui pèse le pour et le contre. Il écoute les deux parties, l'une et l'autre, alors que le martus, le martyr, n'a à se préoccuper que d'un seul. Plus exactement, il n'y en a qu'un seul. Le martyr est témoin d'une vérité. Le martyr ne pèse pas le pour et le contre. Il est engagé dans un combat pour une église, éventuellement, pour un évangile, etc. Le martus intervient dans le présent et pour l'avenir, tandis que l'histor doit ajouter la dimension du passé, puisque son intervention, aujourd'hui, engage pour l'avenir par rapport à une querelle surgie dans le passé. Alors, François Hartog remarque qu'aujourd'hui, le témoin a tendance à l'emporter sur l'historien, depuis la Shoah en particulier. Les récits de témoins, les récits des survivants qui témoignent au nom des victimes sont privilégiés par rapport à la mansuétude ou à l'indulgence de l'historien. Ce débat très actuel est un débat également très présent au XVIe siècle. Ce débat de l'historien et du témoin se pose plus que jamais au temps des guerres de religion, en particulier dans la culture protestante, marquée par une forte imprégnation biblique. Et l'historien et le témoin entretiennent chez eux une relation ambiguë, un commerce interlope. Alors, ce que confirme l'étude des œuvres croisées de Simon Goulard, le continuateur de Jean Crépin, auteur ou plutôt éditeur du Livre des Martyrs, ce qu'on appelle le Martyrologe Huguenot, qui est un énorme volume in folio qui recueille le témoignage de tous les martyrs antérieurs et contemporains des guerres de religion, et d'autre part, le livre de Théodore de Bèze, théologien réformé, humaniste, successeur de Calvin à Genève, auteur en 1580 d'une histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France. Alors on s'aperçoit que ces deux livres, conçus séparément, édités séparément, vont finir par se rejoindre et échanger leurs matériaux. D'emblée, on observe entre ces deux entreprises une double parenté, tant du point de vue de la jeunesse que du but recherché. L'histoire des martyrs, alors on appelle ce livre tantôt Histoire des martyrs, tantôt Livre des martyrs, tantôt Acte des martyrs. Je reviendrai sur cette distinction des titres. L'histoire des martyrs et l'histoire ecclésiastique, c'est-à-dire l'histoire de l'Église réformée, dont la notion histoire ecclésiastique est empruntée à Eusèbe de Césarée, sont toutes deux des œuvres collectives, constituées de mémoires de provenance diverses, que l'équipe installée à Genève rassemble, récolte, recopie, harmonise sommairement. L'une et l'autre, au départ, sont publiées sans nom d'auteur, comme l'émanation d'une communauté de fidèles. Elles n'ont donc pas d'auteur au sens précis du terme, mais tout au plus des éditeurs ou des directeurs de publication. En second lieu, l'histoire, se rapprochant du martyrologe, va renoncer progressivement, au fur et à mesure que le conflit des guerres de religion se prolonge, à l'impartialité qui prévalait au départ. Telle que la conçoit Théodore de Bèze, en désaccord sur ce point avec un corrigionnaire comme la Poplinière, l'histoire entre au service d'un combat et d'une église. L'ataraxie stoïcienne, cette absence de passion que recommandaient les vieux traités d'art historique, d'ars historica, cette ataraxie, cette absence de passion, est désormais proscrite. Loin d'éviter les passions, au contraire, l'historien cherche à les provoquer par des moyens propres qui sont à l'opposé de l'amplification et du pathétique cher à l'art oratoire et qui résident dans une attitude apparente de discrétion et même d'effacement, laissant la parole à l'archive. On veut la vérité, on se met au service de la vraie religion, entre guillemets, en faisant parler des documents véridiques. Et la stratégie rhétorique, si l'on veut, de l'histoire, c'est à ce moment-là de mettre en avant les documents. La critique des sources conserve ses droits, mais leur sélection est délibérément orientée. La partialité nouvellement assumée de l'histoire la rapproche en définitive de l'acte de foi que constitue le martyrologe. Inversement, par une voie symétrique, le martyrologe va rejoindre l'histoire. L'idéal du martyrologe, c'est de donner des documents bruts. L'idéal du martyrologe, difficilement réalisable dans les faits, consisterait dans la présentation archivistique de purs actes, au sens d'actes notariaux, par exemple, ou d'actes juridiques, livrés sans commentaires ni suppléments, et qui d'eux-mêmes parleraient. Des documents bruts, en quelque sorte, laissés à l'appréciation du lecteur chrétien, sans écran ni glose, sans parasitage d'aucune sorte, et qui agiraient immédiatement en vertu même de leur authenticité. Au temps des réformes, il y a en effet, je cite un historien, le rêve ou peut-être la nostalgie d'une religion qui se défendrait d'elle-même et qui triompherait par la seule force de la vérité manifestée dans l'exemple sublime des innocents s'offrant aux tyrans, des brebis tendant la gorge au couteau du boucher. C'est pourquoi les protestants, par exemple, volent les procès-verbaux dans les greffes des tribunaux pour les imprimer dans leur intégralité et produire ainsi au grand jour la vérité, dûment enregistrée et sanctionnée par la justice inique, mais il fallait cette sanction de la justice, et ces actes juridiques révèlent donc au grand jour la pureté de la doctrine évangélique professée par les martyrs. La collection d'archives est donc un idéal, mais un idéal difficilement accessible en raison de la surveillance des greffes et souvent de la destruction des pièces des procès. Il arrivait souvent que l'on brûle les pièces du procès, le sac du procès, avec le condamné sur le bûcher, et l'on suspendait parfois ce sac du procès au cou du condamné. Par la force des choses et faute de mieux, l'archive originale est donc peu à peu remplacée par une compilation de textes hétérogènes qui se ramènent en fait le plus souvent à la copie d'histoires antérieures. En outre, le caractère brut du document, reproduit dans son jargon juridique d'origine et parfois avec ses fautes, qui constituait en tant que tel un gage de véracité, se trouve abandonné au profit de divers modes de fictionnalisation, l'archive se dissimulant dans le flux d'une chronique ou d'un récit historique. Alors, révélatrice, à cet égard, est l'hésitation du martyrologe Huguenot entre plusieurs titres. Il s'appelle d'abord Le Livre des Martyrs en 1554, puis Recueil de plusieurs personnes qui ont constamment enduré la mort pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en 1955. Le mot de recueil montre bien qu'il s'agit d'une compilation de documents. Puis, en 1956, Acte des Martyrs, sous la forme latine d'Acta Martyrum, et qui va se maintenir donc jusqu'en 1564. Acte des Martyrs renvoie bien sûr aux actes juridiques et aussi aux actes des apôtres. C'est une nouvelle église primitive qu'ont fondée les réformés. On est alors entré dans la période des guerres de religion et les actes au double sens apostolique, par référence au livre du Nouveau Testament, et juridique du terme, les actes d'un procès, ne tardent pas à s'infléchir en histoire. En 1570, deux ans avant la Saint-Barthélemy, qui marque le point culminant des massacres, les actes sont devenus une histoire. L'histoire des vrais témoins de la vérité de l'Évangile, qui de leur sang l'ont signé depuis Jean Hus jusqu'aux temps présents. Ce faisant, donc, la juxtaposition énumérative de pièces rapportées plus ou moins selon la chronologie fait place à un récit qui unifie ces différentes pièces. C'est ce récit d'histoire, comme l'appelle Simon Goulard, qui est le compilateur qui succède à Crépin, à la tête de cette entreprise, entre très vite dans la composition du martyrologe et devient sa forme dominante, sa forme structurante. Cette prédominance du récit d'histoire sur les documents juxtaposés, sur les procès-verbaux juxtaposés, correspond à une période historique où il n'y a plus à proprement parler de martyr. Rappelez-vous la définition que j'ai donnée tout à l'heure, le martyr, c'est celui qui témoigne jusqu'à l'extrémité. Et c'est celui qui, jusqu'à l'extrémité, affirme la cause pour laquelle il se bat. À partir de la Saint-Barthélemy, et même dès le début des guerres de religion, les martyrs font place à d'autres combattants qui combattent soit les armes à la main, soit qui sont massacrés dans le trouble des massacres de la Saint-Barthélemy, dans des massacres de masse. Et dès lors, la distinction du vrai martyr de la simple victime est absolument impossible. L'histoire des martyrs devient dès lors une histoire ecclésiastique, une histoire de l'Église, où entrent pêle-mêle, finalement, toutes les victimes persécutées sans distinction de cause. Désormais, entre le spectacle du martyr humilié et triomphant et le regard brouillé du spectateur-lecteur, il faut l'intermédiaire d'un récitant, d'un commentateur, qui narre les tenants et aboutissants, qui donne la clé d'une tragédie absurde et apparemment sans issue. Et il y a tout un débat à l'époque pour savoir si les victimes de la Saint-Barthélemy méritent le nom de martyrs. Et Daubigné répondra par la négative en disant non, ce ne sont pas des martyrs, puisque on n'a pas pu discerner clairement s'ils sont morts pour la bonne cause, alors que devant un tribunal et sur un échafaud, cette cause est tout à fait manifeste. Pour percer donc la nuit d'une histoire aveugle et ordonner le désordre d'un présent tumultueux, le truchement de l'historien est requis. Or, comme tout truchement, cet intermédiaire est infidèle, sa personne fait écran, sa voix déforme la voix d'origine, quelle que soit sa puissance et son souffle, ce porte-voix est un obstacle. Et on pourrait faire la même analyse à propos de l'histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné. D'Aubigné est l'auteur du poème des Tragiques, comme je l'ai dit, c'est également l'auteur en parallèle d'une histoire universelle qui écrit le récit des guerres de religion, qui récapitule l'histoire des guerres de religion à partir de la naissance d'Henri IV et qui va la poursuivre jusqu'au-delà de sa mort. Cette histoire, elle est clairement une reconstruction destinée à tirer du spectacle de la mort des fidèles une leçon de vie. Et je cite un passage tout à fait révélateur L'édit de Chambord, le 17 décembre 1559, écrit d'Aubigné, fit ériger quatre chambres, des chambres de justice, pour vider les prisons. On érige donc des chambres de justice pour condamner, pour juger et condamner les hérétiques et les condamner à mort. Et d'Aubigné ajoute aussitôt, c'est ce qui donna aux réformés de quoi remplir le livre de leurs martyrs. C'est assez extraordinaire, donc on vide les prisons pour remplir le livre des martyrs. Vider les prisons, remplir le livre. Étrange métastase, singulière illustration du principe des vases communicants, dont on peut tirer deux leçons très rapidement. En premier lieu, c'est que dans la logique inhérente au martyrologe, la perte physique est immédiatement compensée par une plénitude symbolique. En second lieu, que le réel aboutit à un livre, la succession des épisodes de la période dite des feux, avec les bûchers d'Henri II, et des fers, avec les massacres de Charles IX, aboutit à une histoire universelle. En définitive, l'histoire ecclésiastique ou l'histoire des martyrs est tout à la fois le réceptacle et la fin d'une série d'événements décevants dont le sens caché et de prime abord ne se découvre que dans leur saisie par l'écriture et dans leur reconstruction. J'aborderai maintenant mon troisième et dernier point qui opère la rencontre des divers thèmes que j'ai abordés jusqu'ici, notamment le thème de la mission, le thème du martyrologe et du thème du voyage, qui a été annoncé tout à l'heure. Mon dernier exemple sera l'histoire d'un voyage fait à la terre du Brésil de Jean de Léry, un texte bien connu que Claude Lévi-Strauss, l'un des plus illustres membres de cette maison, a jadis qualifié de bréviaire de l'ethnologue. Le mot de bréviaire, qui est un peu curieux s'agissant d'un protestant, puisque Jean de Léry était protestant comme d'Aubigné, et comme Gide, ce mot de bréviaire est évidemment un peu étrange, mais il peut être ici utile dans la mesure où il s'agit bien en effet de foi et de croyance. L'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil, publiée à Genève en 1578, se situe à l'intersection de l'histoire, dont elle porte le titre, et du martyrologe, dans lequel elle s'insère partiellement. Le récit de voyage jusqu'à l'âge classique, comme vous savez, ne constitue pas un genre spécifique, mais un sous-genre de l'histoire, l'une de ses moindres parties. Charles Sorel, dans sa Bibliothèque française, dira que les relations de voyage sont des histoires que l'on rapporte, où l'on rapporte plusieurs événements de suite, arrivés en divers lieux, mais qui ne font qu'une partie de la vie des hommes. Sous-genre d'un sous-genre, le récit de voyage prend place à l'intérieur des histoires particulières pour se restreindre à des fragments de vie, parfois des plus brefs. Car, je cite Sorel, « un voyage peut n'avoir duré qu'un certain nombre d'années et même qu'une année seule ou quelques mois. » Puisque le voyage est ainsi enclos dans le genre biographique comme l'une de ses humbles composantes, il n'accède jamais à la dignité éminente des vies qui regarde avant tout les faits et gestes des princes, anciens ou modernes, et qui le regarde totalement, globalement, de la naissance à la mort. Les voyages, selon Sorel, donc, n'auraient d'autre fin que particulière. Alors cette définition, qui est du XVIIe siècle, pourrait être discutée en ce qui concerne le XVIe siècle. Cette restriction, d'une histoire particulière, peut être nuancée, voire écartée, par une sorte de condensation, par une sorte de synecdoque. Une histoire particulière, en effet, peut résumer l'histoire générale des hommes. Ou encore, par métaphore, une navigation au péril des eaux et des vents peut constituer l'emblème parlant du décours de pérégrination humaine, selon une jolie formule d'André Thévé, voyageur du Levant. De l'histoire, donc, le récit de voyage retient le sens étymologique d'expérience vécue. Depuis Hérodote, lui-même voyageur, avant que d'être historien, dans la mesure où il fut d'abord un voyageur, l'histoire, écrit Hartog, est une affaire d'œil et de vision. Tel est bien le cas de l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. Au départ, en effet, et le titre l'indique explicitement, l'histoire procède de l'autopsie. C'est là sa seule et parfaite justification. Léry est à même d'écrire un voyage au Brésil parce qu'il l'a fait, parce qu'il a vu le Brésil de ses propres yeux en 1557-1558, lorsqu'il séjournait auprès de Villegagnon dans la France antarctique que les Français essayaient d'établir en baie de Rio. Bien plus, le « plus voir qu'avoir », la devise de Jean de Léry, c'est « plus voir qu'avoir », condamne comme fable le propos antérieur du cosmographe André Tévé. Une autopsie chasse la précédente et la frappe d'inanité, ainsi déjà en usait Hérodote à l'égard de son prédécesseur Hécatée de Milet, et l'argument vaudra ensuite contre lui-même dans la bouche de Ctésias de Cnide ou de Flavius Joseph. L'historien est un témoin, l'historien a vu de ses yeux, et l'historien révoque en doute l'autopsie, le témoignage antérieur, c'est de bonne guerre. Une fois que Léry a obtenu une sorte de reconnaissance involontaire de la part de Tévé qui va lui répondre, il va exploiter son avantage dans les rééditions de son texte en recourant à une tactique un peu différente. Le principe d'autopsie, histoire d'un voyage sur la terre du Brésil, il s'agit d'un voyage particulier, effectivement accompli, ce principe d'autopsie est maintenu, mais il est complété et prolongé par la référence à des garants extérieurs. Léry augmente son texte par les témoignages concordants de l'arquebusier essois Anstaden, qui était prisonnier pendant 9 mois des toupiniquins anthropophages du Brésil. Et il ajoute également le témoignage d'Urbain Chauveton, de Nicolas Le Chaleux, le témoignage de Thomas Ariot sur la Virginie, et même celui de Jean Léon sur l'Afrique du Nord. De la sorte, Léry élargit le principe d'autopsie pour créer une solidarité de garants qui cautionne ses dires. Et le texte de l'histoire d'un voyage change de nature. Alors qu'il s'agissait d'un écrit autoptique, autobiographique, il devient une somme de témoignages convergents et n'est plus ce reflet immédiat d'une aventure unique telle qu'il se donnait à l'origine. On observe en définitive dans l'histoire du texte de Léry une évolution comparable à celle du martyrologe au temps des guerres de religion. Du document brut ou donné comme tel, écrit sur les lieux mêmes, dira Léry, d'encre de Brésil, j'y reviendrai. On passe à un commentaire historique général qui phagocyte en quelque sorte des matériaux hétérogènes pour les réunir et les fondre dans une même substance, dans une même pâte, où la transparence se perd, où l'énergie de la voix singulière du témoin est sans cesse interrompue et couverte par celle d'un commentateur omniprésent. Et la structure à laquelle on arrive finalement, cette histoire d'un voyage doublant de volume en l'espace d'une trentaine d'années, cette structure feuilletée, cette structure par hantes successives, par incises, eh bien, ressemble beaucoup à celle des essais de Montaigne. Dans les essais de Montaigne, on a 3 strates. Chez Jean de Léry, on a 5 strates successives. Léry augmentant sans cesse son texte en le glosant. Mais l'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil de Jean de Léry est liée d'une autre manière encore au martyrologe, par ses origines mêmes, par sa genèse et les circonstances de sa première rédaction. Le Brésil a été le théâtre de la mort de 3 artisans huguenots, Pierre Bourdon, Jean du Bordel et Mathieu Verneuil, qui ont été donc jetés les fers aux pieds par Villegagnon un matin de février 1558 parce qu'ils refusaient d'abjurer la religion réformée. Alors, aussitôt, leur témoignage a été recueilli, transmis dans le livre des martyrs de Jean Crépin. C'est l'un des premiers textes à être intégré à ce livre des martyrs dès 1564. Et en l'affaire, Léry aurait joué le rôle d'intermédiaire. C'est lui qui aurait transmis ce témoignage écrit, qui n'a pas été recueilli par lui-même, et qui l'aurait communiqué à l'imprimeur. Rien d'étonnant, donc, si l'entreprise historiographique de Léry a beaucoup à voir avec le martyrologe. C'est par là donc qu'il aurait commencé à écrire, qu'il serait entré en littérature par cette relation des 3 martyrs transmise à Jean Crépin. De plus, sous la forme originelle de mémoire, rédigée avec les moyens du bord, en l'Amérique même, dit Léry, l'histoire d'un voyage aurait été écrite d'encre de Brésil. Alors l'encre de Brésil, c'est une encre rouge, une encre qui saigne, si l'on veut, qui est obtenue à partir de la sève d'un arbre, le bois braise ou le pau brasilio, qui a donné son nom au pays et que l'on trouve encore dans la région de Rio de Janeiro. On produisait l'encre de Brésil par macération ou par lessive à partir du bois d'un arbre à teinture qui devait donner son nom au pays. Or, ce sont d'ordinaire les martyrs qui signent leur témoignage avec leur sang. Dans le recueil de Jean Crépin, on a plus d'un exemple de martyrs qui, enfermés dans leur prison, n'ont d'autre moyen d'écrire qu'en se tirant le sang de leurs veines. C'est l'exemple, par exemple, de Miles Coverdale, évêque anglican d'Exeter, s'exprimant au lendemain des persécutions de Marie Tudor. Le martyr écrit avec son corps, il transforme sa chair et son sang en signes, en un écheveau de signes par une sorte de processus de transmutation du matériel au spirituel. Et le voyage de Léry, qui aurait été écrit dans sa première version d'encre de Brésil, d'encre rouge, accomplit en quelque sorte le trajet symétrique et inverse, comme l'indique d'emblée son titre d'histoire, à entendre au sens étymologique, c'est un témoignage rédigé à l'encre rouge dans l'inconfort d'un séjour de 10 mois sous les tropiques. Il se termine par l'évocation des trois martyrs, à entendre au sens étymologique. C'est donc une histoire, au sens étymologique, c'est un livre de martyr, le livre d'un martyr, d'un témoin des saints témoins. Il n'est pas directement martyr, mais il est le témoin des saints témoins, pour reprendre une expression d'Agrippa d'Aubigné. Au terme du parcours, le sang d'encre, le sang végétal tiré du bois braise, est devenu le sang des justes. L'histoire d'un voyage sur l'intérieur du Brésil est une confession de foi rapportée des plus lointains rivages au péril de la vie, une confession sanglante écrite en marge du martyrologe et destinée à le rejoindre. Alors cela est vrai, je passe et je conclue, d'un autre écrit de Jean de Léry qui est l'histoire mémorable de la ville de Sancerre, qu'il écrit juste peu après, avant la publication de l'histoire du Brésil, mais à son retour du Brésil, histoire d'un siège où est commis un épisode de cannibalisme et qu'il publie immédiatement après. Dans le prologue, dans la préface de son histoire mémorable du siège de Sancerre, un siège qui a eu lieu au lendemain de la Saint-Barthélemy en 1573, Léry mentionne l'adage de Saint-Augustin, tiré de Saint-Augustin, donc « ce n'est pas la peine, c'est la cause qui fait le martyr ». Alors c'est très curieux de voir cette récurrence dans les écrits de Léry de cette référence au martyr et au martyrologe. Alors, le mot important, bien sûr, c'est la cause. Léry détourne la formule de son usage et de son sens habituel. Les enfermés dans Sancerre, qui ont vu commettre parmi eux un épisode de cannibalisme suite à la famine qu'ils ont subie, ne sont nullement, évidemment, des martyrs au sens propre du terme. Ce sont plutôt des réprouvés, des gens qui n'ont pas bien profité des enseignements de Dieu. Les apparences, donc, sont accablantes pour eux. Or, voilà que l'invocation de la cause suspend le verdict des événements et, à terme, le renverse. À la myopie de l'histoire immédiate qui entérine le droit du plus fort, c'est-à-dire le droit du roi, le droit des catholiques, qui ont maté la rébellion protestante, cette notion de cause oppose une lecture en profondeur, une lecture verticale qui remonte aux origines et, par un mouvement symétrique, extrapole jusqu'aux fins dernières. Pour ne pas juger avec précipitation et condamner sans réflexion, explique Léry, il faudrait prendre la cause de plus haut. La cause, sans doute, n'abolit pas l'histoire, mais elle la replace dans l'éclairage du dessein divin, tel que l'expose l'Écriture sainte, et c'est à travers Job et le prophète Jérémie que Jean de Léry, dans l'histoire mémorable de Sancerre, tente de comprendre l'incompréhensible. J'en reviens, pour conclure, à l'histoire d'un voyage fait la terre du Brésil. Aux toutes dernières pages, Léry associe son destin à celui des trois martyrs du Brésil noyés sous ordre de Villegagnon. À un moment donné, lors du retour sur un bateau vermoulu qui menaçait de couler, de faire naufrage, une partie des passagers a renoncé au voyage transatlantique et s'est embarquée dans la chaloupe, et notamment les trois futurs martyrs de Villegagnon. Léry a failli descendre avec eux, mais une main secourable l'a retenu. Il est donc seul à être remonté de la barque des morts. Léry a donc mission de témoigner au nom des martyrs. Je cite « en me ressouvenant que moi seul de notre compagnie était ressorti de la barque dans laquelle je fus tout près de m'en retourner avec eux. Comme j'eus matière de rendre grâce à Dieu de cette mienne particulière délivrance, aussi me sentant sur tous autres obligé d'avoir soin que la confession de foi de ces trois bons personnages fût enregistrée dans le livre des martyrs, dès cette même année 1558, je la baillais à Jean Crépin, imprimeur. » Et aussitôt après, Jean de Léry entonne le cantique d'Anne, mère de Samuel, le prophète et juge d'Israël. Cet hymne de louange, qui a inspiré le cantique de Marie, dans Luc 1, versets 46-55, célèbre le renversement des conditions dont Anne, qui était stérile, a bénéficié, puisque elle a conçu Samuel. Et le cantique d'Anne, donc, célèbre en l'Éternel celui qui fait descendre en la fosse et en fait remonter celui qui fait mourir, mais qui ressuscite. Dans la troisième édition de 1585, Léry amplifiera cet hymne d'action de grâce. « Dieu m'a retiré, écrit-il, de beaucoup d'autres détroits où j'ai été. Par quoi ? Pour dire encore un mot là-dessus, puisque la mer, qui est un si furieux élément, ne m'a pas englouti, que les sauvages anthropophages parmi lesquels j'ai été près d'un an ne m'ont pas mangé, ni les famines par où j'ai passé emporté, ne faudra-t-il pas dire que la France, ma patrie, serait pire que Tigresse si, par une mort violente, elle avance mes jours ? Toutefois, étant assuré qu'en quelque sorte que ce soit la mort des enfants de Dieu, du nombre desquels je suis par sa grâce, lui est précieuse, sa sainte volonté soit faite. » Liée au fait minoritaire, la peur de l'engloutissement se traduit en définitive par une sorte de complexe de Jonas. Et l'histoire de Jonas, cet engloutissement par le poisson, cette mort suivie d'une résurrection, c'est la condition du voyageur, c'est la condition du martyr, et c'est peut-être aussi la condition de tout écrivain, de tout écrivain de vie, de tous ceux qui écrivent leur vie pour, au bout du compte, échanger cette vie qu'ils ont perdue dans une vie meilleure, qu'ils espèrent et qu'ils offrent aussi à leurs lecteurs.
Merci pour ce parcours vaste depuis Gide et Gide témoin et martyr, ce qui permet de légitimer en effet l'entreprise d'écriture chez Gide en passant par Agrippa d'Aubigné et jusqu'à Léry, avec cette insistance. Je crois qu'on va la retrouver dans un certain nombre de ces exposés à venir sur les rapports du témoignage et de l'histoire. À quoi tu as ajouté entre les deux le martyr, puisqu'il n'y a de témoin que martyr, du moins à la Renaissance.
Oui, le martyr, c'est le témoin qui témoigne jusqu'au bout, et qui a le choix de la vie et de la mort. Ça, c'est aussi très important, et qui choisit. Alors, il choisit la mort pour obtenir la vie, quoi. Et ça, cet échange symbolique est très intéressant pour ce que tu disais tout à l'heure, je crois, même si tu te plaçais dans un contexte complètement laïcisé, bien sûr.
Oui.
Est-ce que chez Blanchot, il n'y aurait pas d'ailleurs peut-être un souvenir de cette dialectique ?
Oui. Et alors, l'autre point, moi, qui me retient beaucoup, parce que c'est aussi ce sur quoi on va revenir à de nombreuses reprises, c'est le passage du témoignage au récit, tout ce que tu as dit, aussi bien pour Léry que pour Goulard, enfin, le passage du document ou du témoignage, donc, au commentaire et au récit, avec la négation de l'aspect authentique du document dans ce que tu as appelé la patte.
Oui.
Ce qui est mis en cause dans tout écrit personnel, c'est plus le récit que l'écrit, me semble-t-il.
Oui, c'est la mise en récit, c'est ça.
La mise en récit.
Qui fictionnalise, quoi, qui établit une sorte de, qui reconstruit selon les procédés de la fiction, avec une narration, avec des liens de cause à conséquence qui n'ont pas été perçus comme tels lorsque les événements ont été vécus directement.
Lorsque les événements sont vus par le témoin, ouais. Et lorsqu'ils sont transposés dans le document brut.
Voilà. Et alors les premiers recueils de martyrs sont très proches des documents bruts. Ouais. Ce sont d'abord des libelles, des pamphlets qui circulent. Donc, il y a le cas très connu de cinq étudiants qui sont emprisonnés à Lyon. Et ils sont restés un an emprisonnés avant d'être brûlés vifs pour hérésie. Et pendant un an, ils ont correspondu avec l'extérieur. Donc, le dossier des lettres est publié à ce moment-là. et repris ensuite dans l'histoire des martyrs. Donc on a d'abord des témoignages directs, ils sont déjà retravaillés. Hein. La fiction, le document brut est une fiction, bien oui. sûr, mais ce sont des documents qui donnent, en quelque sorte, l'impression d'être sortis directement des mains de ceux qui ont témoigné et qui ont été condamnés pour leur témoignage. Et ensuite, ces documents sont noyés, en quelque sorte, dans une espèce de ciment ou de pâte, comme je disais, qui va lier l'ensemble de manière à donner un sens à l'ensemble, au moment où cet ensemble perd son sens.
Oui, c'est une question, je crois, qu'on va rencontrer souvent, qui est la tentative de faire parler directement le document avec le moins de liant possible. On le retrouve chez les historiens positivistes, chez Seignobos. L'idée qu'un historien devrait se contenter de donner le jeu des documents.
Et on retrouve ça...
Seignobos qui est protestant, d'ailleurs. Ardéchois.
Et l'idée, si tu peux me permettre, oui. L'idée me vient à l'instant. Gide a lui-même publié une série de documents dans une collection oui. qu'il a créée chez Gallimard, ne jugez pas, dont le titre est évangélique, oui. évidemment. Et oui. c'est là qu'est paru la séquestrée de Poitiers, où il s'abstient de juger, où il prétend donner les documents oui. bruts et rapporter le procès brutalement. Oui. En fait, il y a une réécriture.
Oui. Oui, il y a toujours une réécriture, mais il y a ce fantasme de justement, en fait, c'est à ces questions-là que je pensais en donnant comme titre témoigner. C'est le fantasme du témoignage qui ne serait pas perverti par un récit ou par un élément de fictionnalisation, par des rapports de causalité et de conséquence, jusqu'à l'histoire positiviste.
Oui, c'est l'idéal de l'histoire, du style nu. Hein, l'histoire nue, débarrassée des ornements synonymes de mensonges. Oui, il y a une attitude très puritaine là aussi vis-à-vis de cela. L'ornement est assimilé à une sorte d'écran de mensonges, de facticité.
Je crois que toutes ces distinctions seront très utiles pour la suite. Celles que tu as posées entre l'historien et le témoin, le martyr. Oui. Et la question de la relation du témoignage et du récit, me semble-t-il. Voilà, on va te remercier.
Merci. Merci à vous et merci à vous.
Très bien. Très intéressant.
C'est pas trop le chose.
Quoi ?
C'est pas trop le chose.
Pour moi, non.